Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Richard Dufour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de François Angelier pour parler de Léon Blois ou La mystique de la douleur. Une œuvre et une pensée décoiffante pour le moins, un homme ardent et contradictoire qui n'a eu de cesse de clamer la gloire du Christ pauvre et de harceler de sa plume acérée la médiocrité de son siècle. Un homme dérangeant dont la radicalité peut nous aider à évaluer notre propre époque, ses mollesses et ses dérives illusoires. Un homme qui était déjà mauvais genre à son époque et qu'il est tout autant aujourd'hui, tant il a fustigé la bien-pensance. Et ce n'est donc pas étonnant que ce soit François Angelier qui vienne nous en parler, puisqu'il lui a consacré un ouvrage passionné et passionnant. En effet, François Angelier, vous êtes producteur sur France Culture de l'émission Mauvais Genre et chroniqueur au Monde. Vous avez publié des ouvrages sur Saint-François de Sales, Paul Claudel, et vous préparez une biographie de Louis Massignon, que d'ailleurs j'attends avec impatience, mais je crois que c'est une affaire de longue haleine. Mmh. Autant dire que vous vous intéressez au mystique radical, je dis bien radical parce que j'entends la mystique, donc au mystique radical, ardente, décalée, voire suspecte, mais est-ce que c'est pas une spécificité de la mystique? Et c'est le cas, ô combien en tout cas, de Léon Blois, que vous évoquez dans votre dernier ouvrage, Blois ou la fureur du juste, publié aux éditions du Seuil. Alors, je vais commencer par le commencement. Pourquoi écrire un livre sur Léon Blois aujourd'hui, alors que, a priori, on a une idée d'un penseur et d'un écrivain un peu démodé?
Alors, pourquoi Blois aujourd'hui? Parce que Blois s'impose de lui-même pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, je suis bloisien, je suis lecteur de Blois depuis presque plus de trentaine d'années, et il n'y avait pas eu depuis le livre de Maurice Bardèche à la table ronde, c'était une biographie, il y a à peu près effectivement 25-30 ans, d'autres livres sur Blois. Donc je m'étais dit qu'effectivement là, il était nécessaire de reprendre la parole au nom de Blois en capitalisant un peu, c'est pas un mot très bloisien, sur une nouvelle recherche, de nouvelles éditions de textes et relancer les dés en matière bloisienne. Et donc, j'étais très heureux de voir que la collection Sagesse au Seuil a accepté ce projet, parce que Blois n'est pas justement un penseur démodé, c'est un homme d'une totale actualité, en ce sens qu'il a privilégié, je dirais, la contestation spirituelle sur le confort intellectuel et le consensus le plus mou qui soit. C'est une langue qui est toujours extrêmement vivace, la langue bloisienne, quoique datée et très inscrite dans son siècle, est une langue toujours extrêmement capiteuse, violente, incandescente, colorée. C'est une langue rabelaisienne, profondément. Donc il y a ça. Et puis les thèmes bloisiens sont les thèmes d'aujourd'hui, à commencer par la pauvreté, parce que tout ce qui est l'immigration, tout ce qui est le dénuement absolu, tout ce qui est la misère matérielle, tout ce qui est le désespoir des pauvres et des SDF aujourd'hui, eh bien Blois l'a inscrit non pas, je dirais, comme activité un peu adjacente, mais au cœur de sa problématique, de sa foi et de son œuvre. Donc Blois, aujourd'hui, plus que jamais.
Alors, resituons-le dans son temps. Évidemment, Blois aujourd'hui, mais peut-être on va expliquer à nos auditeurs à quelle époque il a vécu et pourquoi, finalement, il appartient en même temps à son époque, en même temps qu'il est un penseur d'aujourd'hui, pour aujourd'hui. En
fait. Alors, Blois, c'est 1846-1917, donc vous faites le compte, la veille de la Révolution de 48, qui est une fracture fondamentale dans l'histoire de l'Europe, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il a été contemporain peut-être de l'époque la plus bouleversée, la plus bouleversante de l'histoire européenne, donc c'est extrêmement important. En plus de soi, si on tente d'inscrire Blois, je dirais, dans l'histoire religieuse française, 1946, c'est l'année de l'apparition mariale de la Salette, l'apparition à deux petits paysans du Dauphiné de cette Vierge en pleurs qui menace et qui met en garde. C'est 58, l'apparition de Lourdes, donc ça, c'était extrêmement important. Il a eu 20 ans au moment de la guerre de 70, donc il a vécu à fond cette période de déshonneur national, de germanophobie et de revanche, donc il a été contemporain contemporain de tout ça. Il a connu en 1905 la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il était contemporain de l'affaire Dreyfus et de la Première Guerre mondiale. Donc, il a pu inscrire sa fureur spirituelle et tout son trajet d'écrivain dans une période qui est ponctuée d'événements fondamentaux. Donc, c'est l'homme de la grande bascule entre, je dirais, le 19e siècle, le 48ard et la Première Guerre mondiale.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qui commence dans son ascendance même, puisqu'il a, si j'ai bien compris, il a un père qui représente le côté athée, laïcard, anticlérical, etc., de ce siècle, de ce 19e siècle, qui, d'une certaine façon, s'achève avec la Première Guerre mondiale, donc on peut dire qu'il traverse le siècle. Il est le 19e siècle, d'une certaine façon, et de sa mère, qui, elle, au contraire, est une femme extrêmement pieuse, voire radicale dans son approche religieuse.
Absolument. Alors ça c'est fondamental et c'est caractéristique de, je dirais, de toute la société française du 19e, début du 20e siècle et de tous les écrivains ou quasiment tous les écrivains dits écrivains catholiques, expression sur laquelle on devra revenir. C'est le cas pour quelqu'un comme Louis Massignon dont vous parliez, dont le père était un humaniste laïque, athée, et la mère une femme très pieuse. C'est le cas pour d'autres et notamment pour Blois, parce que la mère de Blois était une femme d'origine espagnole avec une piété d'époque, c'est-à-dire une piété doloriste, victimaire, tournée non pas vers la transfiguration du Christ, mais vers le calvaire, vers les souffrances du jardin des Oliviers. Une femme qui était d'ailleurs infirme, donc qui souffrait dans sa chair, qui entraînait toute sa famille, sa sœur et ses fils dans cette espèce de méditation, comme ça, endurante, au jour le jour, de la souffrance du Christ. C'est une femme qui écrivait très bien. On a des lettres d'elle à son fils qui sont vraiment des lettres fleuves extrêmement intéressantes. Donc, grosso modo, c'est l'Espagne de Zurbaran, c'est l'Espagne de la mystique catholique la plus sombre et la plus sanguinolente. Alors à côté de ça, vous avez un père qui, lui, est caractéristique de tous ces hommes de la moyenne bourgeoisie du 19e siècle, qui est donc un périgourdin robuste, disciple de Plutarque, franc-maçon, conducteur de travaux, ponts et chaussées et après employé des chemins de fer du Nord, donc un homme qui est inscrit dans la modernité. Il faut dire qu'à l'époque, les chemins de fer, c'était la modernité, c'était l'essor industriel de la France. Alors cet homme incarne ça et donc bon, voilà, il y a une espèce de face-à-face entre, je dirais, Haussmann et Sainte-Thérèse d'Avila. Alors, débrouille-toi, mon ami, oui, il y a Léon Blois, qui ne s'entend pas avec son père et qui finit évidemment par évidemment adhérer à toutes les... Pas dès le départ, mais rapidement adhérer à, je veux dire, à la sensibilité de sa mère. Donc c'est toujours pareil, des familles clivées et puis un détachement de la religion et peu à peu un retour, je dirais, à la religion maternelle. Ça, c'est un modèle qu'on retrouve.
Oui, et alors d'autant plus que vous racontez quand même la mère n'est pas que doloriste parce qu'elle est infirme, mais elle a, d'une certaine façon, elle a appelé la souffrance, l'infirmité sur elle en échange d'avoir un fils, si j'ose dire, consacré, enfin d'avoir un fils qui serait élu par le Saint-Esprit.
Elle s'est offerte en victime consentante à la reconversion de son fils. Ça aussi, c'est un, je dirais, une dramaturgie qu'on connaît bien à l'époque. Je pense une femme qui était déjà malade et puis elle s'est offerte à la Vierge des douleurs pour que son fils retrouve la foi. Donc elle a salué ce retour à la foi comme une véritable victoire. Donc on est la mère est bloyenne avant que son fils soit Léon Blois, on peut le dire.
Oui, alors justement, alors comment se fait ce retour? C'est-à-dire que quelle est la quels sont les événements, les rencontres qui amènent Blois à cette, d'une certaine façon, à une crise, une sorte de crise mystique qui va durer quand même un certain temps et dans laquelle il va véritablement, presque on va dire, basculer et il va devenir Léon Blois à ce moment-là.
Tout à fait. C'est un personnage. Bon, il arrive adolescent à Paris. Il a perdu la foi. Il adhère à un syndicalisme révolutionnaire un peu valécien, frotté d'anarchisme. Il adhère à tout ce qui est la contestation. C'est quelqu'un de violent. N'oublions pas quand même qu'il a été congédié. Son père l'a retiré de l'école vers 13-14 ans parce qu'il avait comme assailli à coups de couteau ses petits camarades. Donc personnage violent, personnage incandescent, très entier. Et donc. Il est à Paris, il travaille au chemin de fer du Nord, où son père l'a placé, il veut être plasticien, peintre, c'est déjà un très très bon dessinateur, donc il a un rêve comme ça d'artiste. Et puis, arrive ce qu'il arrive, c'est-à-dire que ce lecteur de Voltaire et de Vallès, eh bien, tombe sur Barbet d'Aurevilly. Alors Barbet de Rivilly, il faut bien vous dire ce que c'est à l'époque. C'est un personnage totalement hors dimension, qui évolue dans Paris dans des tenues hallucinantes, des chaussures à la poulaine, qui porte un corset, qui a sur le dos une cape de Bouvier en velours noir, des moustaches un peu comme ça d'illusionniste. C'est un personnage à la fois catholique, monarchiste et en même temps sulfureux et sacrilège. C'est le dandysme dans son incarnation la plus forte. Et il se trouve qu'un jour, Blois voit ce personnage dans la rue. Alors la légende veut que Blois le voit Barbet au moment où il est en train de vendre des Voltaire. Donc là, la symbolique joue à plein. On vend Voltaire, on découvre Barbet, on change de camp. Alors, bilan, il voit Barbet dans la rue, il le suit. Alors, Barbet se retourne, voit ce Galapia, lui dit « Dites-moi, jeune homme, qu'est-ce que vous voulez ?» Et lui répond, Blois, le jeune Blois répond à Barbet, « Mais vous admirez. » Alors il dit, « Admirez-moi, mais rentrez d'abord chez moi et asseyez-vous. » Et là, Blois trouve enfin ce qu'il cherchait, c'est-à-dire un mentor. Je vais pas dire père spirituel, parce que le catholicisme de Barbet est d'abord celui de Blois, mais rapidement Blois va évoluer, ce ne sera pas vraiment la même chose. Mais un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui lui apprend, d'abord qui le convertit à la contre-révolution. Autant le père biologique est un héritier de 89, autant Barbet lui dit non, la révolution c'est terminé, c'est le triomphe du bourgeois, du matérialisme, de la société laïque, enfin l'horreur totale. Maintenant vous êtes du bon côté, c'est-à-dire vous êtes monarchiste, vous êtes catholique, vous êtes un héritier de Joseph de Maistre, c'est-à-dire de cette grande pensée catholique tragique, cette grande théologie de l'histoire tragique inaugurée par de Maistre au lendemain de la révolution. Donc vous êtes adieu Voltaire, bonjour Joseph de Maistre. Donc il y a cet élément-là. Et puis Barbet le met au travail sur le plan de l'écriture. Parce que déjà, Blois avait une plume puissante, dont il avait un peu hérité de ses parents. Les parents écrivaient très bien. Et là, Barbet le met au travail. Donc il lui fait lire tous les grands penseurs de la contre-révolution. Il fait lire les mystiques catholiques. Et le jeune Blois récupère le terrain qu'il avait perdu en n'allant pas à l'école, se met à tout lire. Alors il lit les antiques, il lit les modernes, il lit le dictionnaire, il apprend le latin tout seul. Et c'est là où se construit ce personnage. Donc on peut dire que l'idéologie et la mise à feu du catholicisme bloisien a lieu avec Barbet. Et le deuxième temps, c'est un prêtre qu'il rencontre à Notre-Dame des Victoires, le père Tardif de Moidré, qui est un prédicateur millénariste, assez halluciné, un pèlerin de la Salette, un homme qui organisait des pèlerinages à Jérusalem, qui achève de convertir Léon Blois. Donc avec ces deux brancards qui le mettent dans la bonne direction, Blois finit par se reconvertir, on l'avait à la guerre de 70, un catholicisme qui est un catholicisme qui est celui de sa mère, celui de ses maîtres, un catholicisme mystique, millénariste, violent, radical, extrêmement inconnaissant. Je veux dire, ça devient un catholique de combat.
Oui, alors, précisons peut-être pour nos auditeurs que violent ne veut pas dire physiquement, en l'occurrence violent. Quand il était enfant, il était physiquement violent. Il est très violent dans sa plume, dans sa pensée, dans sa façon d'aborder le monde.
C'est un catholicisme qui ne négocie rien. Voilà. C'est-à-dire que, je le dis dans mon livre, Blois ne copine pas. Blois n'est pas un homme, n'est pas un diplomate. Blois n'entre pas en discussion. Blois est centré sur une vérité, et cette vérité est la vérité, donc on combat pour cette vérité, quoi qu'il arrive.
On a l'impression que, d'une certaine façon, il est à la fois déçu de la trahison des valeurs de la Révolution, parce que finalement, les valeurs de la Révolution, c'était des valeurs qui remettaient au centre, qui étaient censées mettre au centre le peuple, et finalement, il y a eu une trahison, puisque ça a fini,
absolument,
comme on sait, et c'est le triomphe de la bourgeoisie, mais c'est pareil pour le christianisme, il est aussi... Il se sent aussi trahi par les chrétiens de son temps. Il sent en tout cas que les chrétiens de son temps trahissent ce qui est au cœur du message du Christ, c'est-à-dire à nouveau ce Christ des pauvres. Et donc, d'une certaine façon, les deux mouvements, les deux valeurs, les deux élans qu'ont été la Révolution ou le christianisme, il trouve qu'ils ont été tous les deux gravement trahis. Et d'une certaine façon, il va se réconcilier à la fois avec son père et avec sa mère en allant au plus profond du combat pour ces valeurs-là.
Tout à fait. La révolution qui a été traduite par une bourgeoisie qui a mis le peuple à l'usine au lieu de le mettre dans la rue et sur le trône, par un catholicisme qui est devenu un catholicisme, je dirais, pantouflard et un catholicisme embourgeoisé. Effectivement, il combat sur ces deux plans. Et d'une certaine façon, il appelle à une mystique révolutionnaire du catholicisme. C'est ça, que le catholicisme retrouve ses vertus de mystique révolutionnaire et de pierre de scandale. Il n'est plus question d'avoir une sorte de catholicisme, je dirais, strictement dominical, de bourgeois, dont les prix-dieux sont étiquetés et loués à l'année. Non, là, Blois remet le catholicisme dans la rue.
Oui, et alors, en ce sens, effectivement, on voit qu'il y a une vraie actualité de cette pensée, puisque nous sommes aussi dans une société qui est tiraillée entre une religiosité très mal comprise et très dévoyée d'une certaine façon, ou un consumérisme ou un capitalisme délirant, enfin presque délirant. Et en ce sens, il peut nous aider à ne pas opter ou pour l'un ou pour l'autre, mais pour une voie, une troisième voie, je dirais, une tierce voie, une autre voie, qui évidemment est radicale et très exigeante.
Tout à fait. Le catholicisme est la chose du Christ, et le Christ, c'est le pauvre. C'est l'incarnation du pauvre, c'est-à-dire le dénouement, la misère, le Fils de Dieu ayant pris sur lui le péché, toute la misère du monde. La misère incarne la vérité du catholicisme. Et donc, pour Blois, c'est absolument le premier combat. Il faut d'une certaine façon désempoisser, désembourgeoiser, amaigrir et retrouver le nerf même de la violence chrétienne et de la sainteté, et de la charité, parce que c'est ça. Donc, effectivement, il est en lutte avec tout ce catholicisme Troisième République, qui est un catholicisme sulpicien, qui est un catholicisme tout en décorum, en une espèce de littérature somme toute assez confortable. Donc il est en guerre avec tout ça et il est seul.
Qu'est-ce qu'il aurait pensé, vous pensez, du pape François ?
Ben, le pape François, il a bonne idée de le citer. Alors ça, j'ai pu tomber de ma chaise ce jour-là. Un pape qui cite Léon Blois.
C'est fort.
Fallait le faire. Je pense qu'il a été terrible pour les papes, hein, notamment le pape de Benoît XV, enfin le pape de la guerre. Il disait que c'était Pilate II, parce que c'était un pape qui appelait à la paix avec l'Allemagne, à l'entente, alors qu'il fallait submerger l'Allemagne. Donc je pense qu'il aurait eu, d'une certaine façon, une certaine empathie avec François.
Alors, est-ce que, puisqu'on a parlé de politique aussi, est-ce que son monarchisme, il est vraiment monarchique ou comment Blois, il concilie l'idée de la monarchie avec l'idée
du peuple ? Non, il n'est pas du tout monarchiste. Il n'est absolument pas monarchiste parce que, je dirais, il était plutôt du côté des monarchistes, grâce d'abord à Barbet, et puis après, Louis XVII, il a été joint par ce qu'on appelle les surviventistes, ceux qui pensaient que Louis XVII n'était pas mort au temple, et donc, il était, plutôt de ce côté-là, et les figures qu'il a interrogées, les figures historiques, étaient plutôt monarchique. Mais pour lui, d'abord, premièrement, l'histoire est une énigme opaque. L'homme ne sait pas qui il est, ne sait pas où il va, on ne sait rien. Il dit d'ailleurs, je le cite, il dit peut-être le tsar est persuadé de régner, mais il règne pas du tout, c'est peut-être son valet qui règne. Il considère que dans l'envers du décor historique, c'est-à-dire l'histoire vue dans sa vérité spirituelle, peut-être les cartes sont distribuées totalement différemment. Nous, on ne sait rien. Et donc, à ce titre-là, je l'ai écrit, le sang ne fait pas sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vertu du sang. Il n'y a pas de sang bleu, de sang rouge. De sang. Il y a la spiritu, il y a l'âme. Et l'âme avant tout, avec le destin que le Dieu lui accorde. Donc à ce titre, il peut pas être monarchiste, puisqu'il peut pas reconnaître. D'ailleurs, ce qui l'intéresse dans Louis XVII, prenons un exemple, ce qui l'intéresse dans Marie-Antoinette, on va prendre les choses chronologiquement, c'est la figure de la tragique, de la femme conspuée, de la femme martyre, d'ailleurs, figure que reprendra Louis Massignon.
Oui,
mais ce qui l'intéresse dans Louis XVII, c'est un peu comme le film, je crois, de Bertolucci, qui était le dernier empereur de Chine, qui a fini un homme parmi les autres. C'est un film très bloyen, parce que c'est ça qu'intéresse Blois dans Louis XVII. Louis XVII, c'est peut-être un type qui est aujourd'hui commis d'épicerie ou qui est un personnage totalement inconnu. Et donc à ce titre, effectivement, il est persuadé que il est intéressé par les rois découronnés et les rois perdus dans l'anonymat du peuple. C'est ça qui l'intéresse. Donc il est peut-être monarchiste parce qu'il s'intéresse à Marie-Antoinette et autres, mais il n'est pas du tout monarchiste sur le plan idéologique. C'est pas du tout un bonaldien.
En fait, il est presque plus un anarchiste qu'autre chose, finalement.
Il est anarchiste au sens qu'il ne reconnaît pas le pouvoir terrestre. Il ne reconnaît que la justice divine et le mystère dans lequel on est. C'est-à-dire que, à ce titre, c'est un anarchiste. Aucun pouvoir n'est pour lui légitime. Pas le pouvoir issu des urnes, bien évidemment. Pas le pouvoir issu de la lignée, certes. Et quant au pouvoir issu de la curie romaine, alors là, n'en parlons pas.
N'en parlons pas. Alors, vous avez parlé justement de cette question d'identité. On va peut-être écouter quelques extraits. Vous citez abondamment des extraits de Léon Blois, ce qui est très agréable à la lecture, parce que du coup, on comprend pourquoi vous l'aimez tant. Et on comprend que son style est quand même tout à fait singulier. Et il a une force très, très grande dans l'expression de ses idées radicales. Là, j'ai choisi ce passage, et il y en a d'autres que vous citez qui sont tous très beaux, mais bon... J'ai choisi celui-là, sur l'identité justement, sur l'impossibilité de se connaître de l'extérieur en tout cas. Le mot de Saint Paul. Videmus nunc perspeculum in a enigmate serait la lucarne pour plonger dans le vrai gouffre qui est l'âme humaine. L'épouvantable immensité des abîmes du ciel est une illusion, un reflet extérieur de nos propres abîmes, aperçu dans un miroir. Il s'agit de retourner notre œil en dedans et de pratiquer une astronomie sublime dans l'infini de nos cœurs pour lesquels Dieu a voulu mourir. Aucun homme ne peut voir ce qui est en lui. Si nous voyons la Voie lactée, c'est qu'elle existe véritablement dans notre âme. Et la citation du mot de Paul en français, c'est « nous voyons à présent dans un miroir en énigme ». Il fait d'ailleurs beaucoup référence à saint Paul.
C'est la parole clé. C'est pas la parole clé, c'est un paulinien beaucoup plus qu'autre chose. Et effectivement, c'est ça qui dicte sa vision du monde. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'errance, on est dans la nuit. On ne sait rien. Alors, par contre, on peut utiliser comme fanal certaines choses. Et le fanal majeur, c'est la souffrance. Si vous souffrez, la souffrance, c'est pour vous une lumière qui vous aide à progresser dans cette nuit. Et ceux qui sont là un petit peu, les grands souffrants sont également comme des phares dans la nuit. Alors, c'est pour ça qu'ils privilégient la figure des saints. Quand on dit la souffrance, attention, il s'agit pas d'une sorte de d'auto-flagellation décorative ou de masochisme, de dégustation masochiste. C'est véritablement éprouver en soi la passion du Christ. C'est une souffrance christique, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et quand on parvient, ne serait-ce qu'un peu, à cet état, on est guidé. On est guidé. Et le grand maître sur ce plan, c'est le philosophe Blanc de Saint-Bonnet qui écrit La douleur et qui dit que la douleur, d'une part, est formatrice pour l'homme, puisque l'homme qui souffre sait, et qu'en même temps, la douleur est un des grands indicateurs, une espèce de grand fléchage sûr pour progresser dans l'existence et dans l'histoire.
Oui, et alors là, on sent tout au long de sa vie qu'il est écorché, et peut-être qu'il est de plus en plus écorché, parce qu'il prend sur lui cette mystique de la douleur. Vous avez raison de préciser qu'il ne s'agit pas d'un masochisme, mais vraiment à la fois d'une philosophie et d'une mystique, dans le sens où il se passe quelque chose dans la douleur qui est en rapport avec la vérité, qui ne peut pas advenir dans l'absence de douleur, si j'ai bien compris.
Tout à fait. La douleur est peut-être la seule vérité qui soit offerte à l'homme. L'expérience de la souffrance est peut-être la seule vérité qui soit offerte à l'homme. Donc à partir de ce moment-là, si on en est privé ou si on la refuse, on est évidemment après condamné à une sorte de médiocrité. Je veux dire, la médiocrité est là, la voie moyenne, c'est-à-dire une voie qui est coupée du centre et qui est coupée de l'intensité de la vérité.
France Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar.
Oui, et alors là aussi, pour notre époque, c'est très C'est très loin de ce que l'on recherche. C'est vrai que notre époque cherche à vraiment définitivement, si possible, évacuer la douleur. C'est vrai que très souvent ici, même dans cette émission, on a parlé énormément de bonheur, de bien-être, etc. Mais en réalité, la voie que lui propose, c'est quelque chose de très différent de ce que nous, aujourd'hui, nos contemporains, en tout cas, pensent de ce que c'est que l'entreprise spirituelle.
Ah, tout à fait. C'est quelqu'un qui tourne le dos de manière absolue et très, très précoce à tout ce qui est bien-être, confort, molle oreiller du doute et de la tolérance. C'est quelqu'un qui vit attaché à la croix. Alors évidemment, aujourd'hui, ça peut sembler excessif, ça peut sembler désuet, mais c'est à mon avis ce catholicisme-là qui tient, qui résiste et qui perdure. Et notamment celui de Blois. Et quand je dis qu'il a tourné le dos à tout bien-être, c'est la vérité. Blois a déménagé toute sa vie, une vingtaine, quinzaine de fois dans des résidences, des demeures qui étaient véritablement plus que précaires. Il a perdu deux enfants, trois enfants. Il a souffert énormément. Les femmes dont il a partagé la vie étaient des femmes qui ont énormément souffert. Je pense effectivement Anne-Marie Roulet, sa muse d'une certaine manière, qui lui a un peu révélé la totalité de son destin spirituel. Et puis après Berthe Dumont, qui est morte sous ses yeux du tétanos qu'elle avait contracté parce qu'elle était morphine pour calmer ses souffrances, était tuberculeuse. Donc, Blois est un bain de souffrance permanent. Alors, on ne demande pas aujourd'hui aux gens de le partager, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette souffrance est une exigence de vérité. Et à l'époque, c'était peut-être le moyen d'y parvenir.
Oui, évidemment, on peut pas résister à l'envie de lire un texte de Léon Blois lui-même sur cette douleur et de voir comment ce que nous venons de dire s'articule chez lui aussi dans l'écriture. La douleur, voilà le grand mot. Voilà la solution de toute vie humaine sur la terre. Le tremplin de toutes les supériorités, le crible de tous les mérites, le critérium infaillible de toutes les beautés morales. On ne veut absolument pas comprendre que la douleur est nécessaire. Ceux qui disent que la douleur est utile n'y comprennent rien. L'utilité suppose toujours quelque chose d'adjectif et de contingent. Et la douleur est nécessaire. Elle est l'axe vertébral, l'essence même de la vie morale. L'amour se reconnaît à ce signe, et quand ce signe lui manque, l'amour n'est qu'une prostitution de la force ou de la beauté. Je dis que quelqu'un m'aime lorsque ce quelqu'un accepte de souffrir par moi ou pour moi. Autrement, ce quelqu'un qui prétend m'aimer n'est qu'un usurier sentimental qui veut installer son vil négoce dans mon cœur. Et Dieu sait que quand Léon Blois emploie le mot « négoce »,
oui,
ça veut dire que c'est la pire des choses, n'est-ce pas, François Angélier ?
Tout à fait. Le négociant, c'est l'horreur. Parce que le négociant est proche du négociateur. Alors, c'est à la fois l'homme qui trahit ses convictions pour obtenir une sorte de demi-vérité confortable, on retrouve le bien-être, et le négociant, c'est le boutiquier, c'est le commerçant, c'est l'homme qui fait du trafic. Et là, c'est la condamnation radicale, puisque ce que Blois condamne l'homme, l'auteur du sang du pauvre, et qu'une sorte de théologie de l'argent, en lien avec le destin du judaïsme, l'homme de la femme pauvre, l'homme du désespéré, n'a jamais rien tant haï que la suffisance, l'arrogance, la dimension, je dirais, repue et assise des commerçants. Il a vécu à l'époque du triomphe et de la bonne conscience capitaliste dans ce qu'elle avait de plus, le plus terrible. C'est vraiment, il a vécu à l'époque du siège du Crédit Lyonnais, une espèce de splendeur haussmannienne de la bourgeoisie d'argent. Donc lui, qui vivait dans la rue avec ses croques d'eau et ses compagnes hallucinées, ne pouvait que condamner l'argent. Cela dit, il faut quand même reconnaître qu'il aurait aimé publier des livres, il aurait aimé avoir des lecteurs. Donc d'une certaine façon, Il a accepté son destin comme étant un destin, je veux dire, spirituel, mais qu'il n'était pas tourné vers, je veux dire, une sorte de rupture totale de communication, puisqu'il publiait.
Oui, et puis il ne vivait pas en ermite. C'est vrai qu'il vivait en pauvre, mais au sein de la société.
Absolument,
en
il dit « j'accepte d'un cœur vaillant, j'accepte d'un cœur sincère toute personne qui vient honnêtement vers moi ». Et c'est la vérité. Il ne supportait pas les gens qui venaient le voir, parce que le personnage de Blois a fini par devenir une sorte de fric, une sorte de
fric, pas FRIC.
Oui, voilà, une espèce de monstre bizarre que les gens allaient voir un peu comme on va au zoo. Il lui est même arrivé une chose étrange à Blois, il faisait la sieste chez lui, il se réveille et quelqu'un était au pied de son lit qu'il ne connaissait pas. Il dit, mais qui vous êtes? Il dit, je voulais voir à quoi vous ressembliez. Donc, il y a quelqu'un qui venait pour voir à quoi ressemblait Blois, comme on va au jardin d'acclimatation, voir l'ours, ou le lamantin. Vous voyez, c'était un peu ça. Et en même temps, malgré tout, il avait des amis, peu d'amis, mais parce que les ruptures étaient très rapides si on commençait à transgresser ou à franchir le Rubicon, il y avait certaines choses qui ne passaient pas. Mais il a eu des amis très, très chers et très sincères.
Oui, et alors on a parlé de la douleur dans sa vie, de la misère qu'il a assumé, enfin qu'il a subi parce qu'il n'avait pas le choix. Encore que je me demande quand même s'il ne la cherchait pas un peu pour justement vivre cette pauvreté au plus près. Et puis il a aussi eu des drames, il a perdu ses enfants, ce qui n'est peut-être pas étranger au fait que cette idée de la douleur prend de l'ampleur plus il avance dans la pensée et plus cette idée à la fois de la douleur et du sentiment de ne pas pouvoir être maître de son destin et donc de devoir s'y abandonner, prend de l'importance et de l'ampleur.
Tout à fait, il a perdu deux fils et il a eu deux filles qui ont survécu et qui ont porté sa mémoire. Mais il a pas eu de fils. C'est notamment la mort du petit André qui est raconté dans La Femme pauvre. Cet enfant qui meurt très 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 tôt dans des convulsions pour des raisons assez bizarres. Enfin, je veux dire typhoïde ou diphtérie, on ne sait pas très bien. La mort du petit André est pour lui justement un mystère. Ça fait Dieu lui retire son fils. Donc tout est signe. Pour Blois, rien n'est indifférent. Rien n'est gratuit, tout est significatif, tout fait signe. Donc si Dieu lui retire son fils, c'est bien que quelque chose, ce phénomène a un sens. Donc c'est à la fois une souffrance intolérable, mais cette souffrance au nom du Christ, il faut l'accepter. Et ce signe mystérieux de la mort du fils, au nom de l'exégèse régulière, comme ça, l'exégèse du monde, il faut s'y pencher. Donc c'est ça qui est fascinant chez Blois, c'est un homme qui tente de faire de sa vie, de donner un sens et de trouver le sens de son existence à tous les moments de sa vie. C'est-à-dire que rien n'échappe. Tout est, et pas uniquement sa vie, là, le monde entier est bruissant de signes, et tout doit être accepté, tout doit être scruté, quel que soit l'événement.
Oui, et d'ailleurs tout doit être scruté et faire sens, mais finalement il finit par penser que l'histoire ne fait pas sens. Et ça c'est un point de subtilité intéressant, c'est-à-dire que ça ne fait pas sens, ce qui est humain ne fait pas sens, et en même temps les choses font signe. Il y a pour lui une distinction entre le sens, finalement peut-être la raison, et le signe qui est un ordre de compréhension pour lui supérieur, en tout cas transcendant.
C'est-à-dire que le sens de l'histoire, le sens des choses nous échappe. Donc on peut donner on peut expliquer, on peut expliciter, on peut donner, de conférer un sens personnellement en tant que, soit parce qu'on est scientifique, soit parce qu'on a des convictions philosophiques à l'histoire. Mais ça, pour Blois, c'est rien. Toute la nouvelle histoire des héritiers de Michelet n'existe pas. La seule chose qui est importante, c'est non pas de reconnaître que les choses ont un sens, mais qu'elles font signe. Mmh. Et à partir de là, il y a une sorte de scrutation charismatique, d'analyse exégétique et charismatique de l'histoire. Blois, parce qu'il lisait énormément l'historien et les chroniqueurs, est penché sur l'histoire et tente de scruter ces signes-là et de savoir quel était le sens de tel personnage. Bon, là, ça explose dans un texte fameux qui est L'Arme de Napoléon, qu'on peut toujours lire aujourd'hui, qui est réédité en permanence, où il dit, mais Napoléon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Napoléon, ah, le grand homme, quel est son sens? Napoléon, ah, le grand général, quelles ont été ses vertus militaires et politiques? Non, c'est Napoléon est un, et qu'est-ce que ça veut dire Napoléon? Quel sens ça a Napoléon? Voilà. C'est presque une question psychanalytique.
Oui, alors à nouveau, ça nous interpelle encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quel sens ça a, ces événements qui se sont produits en France et dont nous sommes au fond les héritiers? D'ailleurs, nous sommes aussi déchirés entre notre républicanisme laïcard et en même temps cette idée que la France est une terre spirituelle. Donc c'est
tout
vrai
que
nous sommes héritiers aussi de cette façon qu'il a de regarder l'histoire de France. Et je voudrais aussi, puisqu'on parle d'histoire, ne pas passer sous silence une question qui se posera certainement à toute personne qui a entendu au moins le nom de Léon Blois, c'est la question de... Alors, judéophobie ou judéophilie? Vous en parlez dans votre livre. C'est pas très long, mais enfin vous
c'est important de le faire.
C'est très important parce qu'il a la réputation d'être un antisémite. Et moi, j'ai découvert ici que c'est pas du tout le cas.
Ce qui est, c'est même pas absurde, c'est scandaleux. En plus, Léon Blois a été condamné, le salut par les Juifs, donc de Blois, a été condamné par le récemment au tribunal comme étant comme participant d'une sorte d'ensemble de textes antisémites, ce qui est d'une absurdité totale. Non, il faut dire que Blois ne pouvait pas être antisémite, parce que d'une part, d'abord il a eu un lien assez précoce avec certains poètes juifs, il a fréquenté parmi les rares mécènes qu'il a pu avoir, il y a eu des commerçants juifs parisiens, et il l'a dit et il a répété que, d'une certaine façon, il était en empathie et en sympathie avec le destin du judaïsme. Et pour lui, ce qui est extrêmement important, ça n'est pas tant, enfin, l'événement crucial n'a pas été tant l'affaire Dreyfus, qui n'était pas en France à ce moment-là, sur lequel il passe assez vite. Dans le journal de Blois, l'affaire Dreyfus ne tient pas grand place. Par contre, et il avait à mon avis raison, ce qui est tout à fait inquiétant et ce qui a été porteur d'un noir avenir, c'est la France juive de Drumont. Mmh. Parce que là, il a condamné de manière, je dirais, radicale avec ce salut par les Juifs, qui a été lu aussi bien par Emmanuel Lévinas que Maritain Hérédité, qui est dédié à sa fille juive convertie, Raïssa Maritain. Il a condamné la France juive comme étant, je dirais, d'une certaine façon, un antisémitisme, je dirais, social et racial dans ce qu'il a de pire, combiné avec un juteux coup de librairie. Donc pour Blois, c'est l'horreur. C'est-à-dire, c'est faire de l'argent avec des sentiments infâmes, donc on est quand même au degré zéro. Et pour lui, au contraire, le judaïsme et l'histoire du judaïsme est une véritable... Alors là, est le signe majeur de l'histoire, avec voilà. Sa phrase célèbre, mmh. le destin des Juifs barre l'histoire comme un fleuve pour en élever le niveau. Voilà. Mmh. Donc il fait du judaïsme, et il est le seul à l'époque, il y en a très peu, à faire du judaïsme et du destin du peuple juif un élément majeur de la destinée humaine, et non pas une espèce de tribu errante dont il faut surveiller les agissements et avoir une défiance permanente. Ça n'empêche que dans les textes de Blois, la communauté juive, comme toutes les autres communautés, est par moments durement foyée. Il y a des figures aussi bien dans La femme pauvre que dans Le désespéré, des figures donc de personnages qui sont juifs, qui sont étriés. Comme toutes les autres.
Il y a aussi des catholiques qui sont des triés.
Absolument. Je veux dire, ça n'est pas spécifiquement lié. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il a été le seul en son temps à, d'une certaine façon, à combattre la montée de l'antisémitisme de Drumontien, dont on voit où il aboutira. Enfin, je veux dire, il aboutira aux lois d'exception de Vichy. Et à ce qu'on sait. Et surtout, à interroger le judaïsme, non pas sur un plan, je dirais, historico et juridique, mais sur un plan spirituel.
Oui, et d'ailleurs, il a... Peut-être je vais lire juste un extrait de ce texte que vous citez, dans lequel il montre que le christianisme repose
absolument
entièrement sur le judaïsme, à commencer par la personne même.
Il est matriciellement juif, le
christianisme. Oui, à commencer par le Christ lui-même et sa mère, d'ailleurs, dont il va parler, et dont on parlera aussi tout à l'heure. Puisque la figure mariale est très importante dans son œuvre. Supposez que des personnes autour de vous parlassent continuellement de votre père et de votre mère avec le plus grand mépris et n'eussent pour eux que des injures ou des sarcasmes outrageants. Quels seraient vos sentiments ? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à notre Seigneur Jésus-Christ. On oublie, ou plutôt on ne veut pas savoir, que notre Dieu fait homme est juif. Le juif par excellence, de nature, le lion de Juda. Que sa mère est une juive, la fleur de la race juive, que tous ses ancêtres ont été juifs. Évidemment, il emploie le mot race parce qu'il est de son temps.
Qui à l'époque s'emploie.
Voilà. Je précise pour nos auditeurs,
c'est sans aucun problème ni aucune distinction particulière.
Voilà. Nous sommes avant 1939, même avant 1933, on va dire. Que les apôtres ont été des juifs, aussi bien que tous les prophètes. Enfin, que notre liturgie tout entière est puisée dans les livres juifs. Ça, c'est très important. Que notre liturgie tout entière est puisée dans les livres juifs. Dès lors, comment exprimer l'énormité de l'outrage et du blasphème qui consiste à vilipender la race juive ? L'antisémitisme, chose toute moderne, est le soufflet le plus horrible que notre Seigneur ait reçu dans sa passion qui dure toujours. C'est le plus sanglant et le plus impardonnable parce qu'il le reçoit sur la face de sa mère et de la main des chrétiens.
On peut condamner Blois pour antisémitisme alors qu'il a écrit une page pareille. Enfin, il y a quand même des moments où on se pose des questions.
Pour ça que je tenais à le.
Vous avez tout à fait raison et je vous remercie d'avoir lu ce texte parce que là, les choses sont claires. Et il est le seul à l'époque à proférer, je veux dire, à la face du monde ce type de discours. C'est-à-dire, je reviens à cette expression, le christianisme pour lui est matriciellement juif, c'est-à-dire qu'il a une racine juive et qu'il épanouit et d'une certaine façon qu'il dépasse, puisque pour lui le catholicisme est une sorte d'épanouissement de la on passe au règne de l'amour et au règne de la loi. On sent s'il c'est un millénariste, et il est pour le règne de l'amour et pour l'esprit. C'est un disciple de Joachim de Flore. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est extrêmement important. Et d'une certaine façon, il y a une sorte de Rabbi Blois, comme le disait mon ami Livonnet. Il y a une sorte de talmudisme Blois. Il dit, vous savez, mais moi mon vrai fond, c'est pas la littérature, la poésie, j'aime bien, sympathique, mais le vrai fond, c'est les écritures. Et Blois, c'est ça. Il avait pas d'argent, il voyait peu de monde, il avait son pot de vin, il était chez lui, il avait ses feuilles, sa plume, et il avait la Bible ouverte devant lui, et la Bible d'ailleurs qui a été qui est passée en vente récemment, la Bible de Blois est une chose absolument extraordinaire, puisqu'elle est entièrement annotée, mais quasiment verset par verset, on a pu en voir la photographie, c'est quelque chose d'étonnant, il passait son temps penché sur la Bible, à scruter les versets bibliques, c'était la Vulgate, c'était la Bible latine, et essayer justement, de même qu'il cherchait à trouver quel était le sens derrière tous ces signes qui l'entouraient, depuis le lieu le commun bourgeois le plus bête jusqu'à la figure de Napoléon, il cherchait le sens, pareil avec la Bible. Et donc là, on est dans une sorte de pratique qui ne tient pas du tout compte, je dirais, de l'intercession théologique, de tous les porte-paroles du catholicisme. Non, il est dans la Bible. Il est comme un juif de Jérusalem. Il est penché sur sa Bible et il réfléchit et il la mâchonne et il la mastique, comme fera Claudel plus tard à partir de 1926 avec ses écrits. Et il circule dedans, il réfléchit et de temps en temps, il fait bon sang, mais c'est bien sûr, parce qu'il a eu une intuition. Il relie la Bible avec tel événement qu'il a eu dans le journal, avec telle parole de sa fille. C'est ça. Donc évidemment, d'une part, il y a la racine juive du catholicisme. D'une part, il y a le fait que finalement Jésus, Marie, les apôtres étaient juifs. Et en même temps, il y a la présence des livres saints. Donc tout ça, d'une certaine façon, exempte et même sauve Blois, est l'un des rares de l'antisémitisme qui à l'époque se portait à la boutonnière. Enfin, c'était très chic.
Oui, alors en vous lisant, ça va peut-être vous paraître étrange, mais en lisant ce livre, je n'ai pas cessé de penser que l'islam d'aujourd'hui, en France, aurait besoin d'un Léon Blois. Alors, la question du judaïsme est comprise dans ce que je dis, c'est-à-dire que si quelqu'un pouvait penser, du point de vue de l'islam, le judaïsme, comme Blois le pense, je pense que ce serait très salutaire. De même que si quelqu'un pouvait penser l'islam autrement que ce qu'est devenu l'islam politique, avec cette façon herméneutique de voir les choses. Et je me disais, c'est incroyable, je trouve beaucoup d'écho en fait, entre la façon dont Blois a souffert et la façon dont Blois a voulu réanimer le christianisme qu'il considérait comme mourant, et ce qui se passe aujourd'hui dans l'islam, qui est mourant, et qui aurait besoin de quelqu'un qui puisse enfin le penser de manière vive. Parce que vous venez de dire que la Bible est quelque chose de vivant.
Qui réincarne dans son message et dans sa vie la dimension purement spirituelle de l'islam. Et ça, enfin, quelqu'un qui a réinterrogé, je dirais, l'islam depuis le catholicisme, ça a été Louis Massignon.
Oui.
Je veux dire, qui était un bloyen, un salétain, et donc qui a fait cet effort, justement, de réinterroger l'islam dans une perspective abrahamique des trois grandes religions du livre, et qui nous sauve de toutes ces espèces de guerres civiles intersémitiques stupides, meurtrières, dont on voit les spectacles hélas tous les jours. Et c'est sûr que Blois, ça aurait été intéressant, mais à l'époque de Blois, effectivement, l'islam n'existait pas.
C'est-à-dire,
ça aussi, c'est une question qu'il faudra poser un jour. Comment se fait-il que l'islam ait disparu, était absent à ce point de la méditation de toutes ces figures?
Oui, parce qu'il n'était pas exposé, d'une certaine façon.
Oui, il n'était pas exposé. Enfin, c'est un autre débat.
Oui, mais... Alors, puisque le temps passe, pour finir, dans les quelques minutes qui nous restent, je ne voudrais quand même pas qu'on ne parle pas. Alors, vous avez parlé beaucoup de Salette, de Marie, donc cette lignée, en fait, de Salette. Peut-être juste, en quelques minutes, nous dire quelle fonction absolument centrale et essentielle a Marie, non seulement chez Léon Blois, mais finalement dans tout le XIXe siècle. Finalement, l'idée de Marie telle qu'on l'a aujourd'hui, elle nous vient du XIXe siècle et elle est pivotale, si j'ose ce mot.
Alors les choses sont simples, le 19e siècle est un siècle marial, d'abord parce que c'est le siècle des apparitions, Médaille Miraculeuse 1830, Salette 1846, Lourdes 1858, Pontmain 1970, donc tout le 19e siècle catholique français est parcouru d'apparitions mariales qui sont certaines, la Salette, c'est la Vierge qui pleure et qui menace et qui prévient, si vous continuez à vous conduire mal, le bras de mon fils va vous assaillir, ça va être terrible pour vous. La Vierge de Lourdes, qui est une Vierge thérapeutique, la Vierge de Miséricorde, de la Médaille Miraculeuse. Bon, le siècle marial, avec les apparitions qui génèrent des pèlerinages, toute une littérature, toute une foi mariale. Et pour Blois, c'est essentiel parce que Blois est un fils de la Salette. Il a été converti par le père tardif de Moidré, qui est un salétain. Et là, je dirais, l'épiphanie, la hiérophanie, l'expérience du sacré de Blois, il l'a fait à la Salette. Il le raconte d'ailleurs dans Le Désespéré. Il perd un peu, il sort de l'espace et du temps. Il entre dans un espace qui est un espace autre. Bon, voilà. Il est marial. Et pour lui, Marie est centrale. Pourquoi? Parce que Marie, c'est la comte Ève. C'est-à-dire, Ève nous a chassés du paradis terrestre. Marie nous ouvrira le paradis céleste. Et d'une façon, toute l'histoire est en poids contre poids avec Ève et Marie. Et donc, la figure de la Vierge, qui est une figure doloriste, qui est une figure violente, puisque pour lui, la Vierge, c'est la Vierge de sa mère. C'est-à-dire la Vierge au cœur cette fois perforée, la Vierge du calvaire. Donc, c'est à la fois celle qui nous prévient, celle qui souffre pour nous et celle qui un jour, prions, nous réouvrira le paradis céleste.
Merci beaucoup, François Angelier.
Merci de m'avoir invité.
D'être venu nous parler de cette fureur du juste, Léon Blois. C'était Les Racines du Ciel. La semaine prochaine, je recevrai Blanche de Richemont qui viendra nous parler du souffle de son maître. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour continuer avec lui les chemins de sagesse.
Le détachement, tel qu'on peut le comprendre à travers les philosophes qui en parlent et les sages qui en parlent, ce n'est pas ne pas s'impliquer, ce n'est pas une sorte de négligence. On pourrait croire que être détaché, ça veut dire s'en fiche. Voilà. Donc finalement, peu importe quoi qu'il m'arrive, etc. Ce n'est pas ça du tout. Le détachement d'un point de vue philosophique, c'est un engagement. Je suis très impliqué, je suis très engagé, mais je ne veux pas plier le monde à mes désirs. Le sage, c'est celui qui se transforme lui-même pour s'adapter au réel, plutôt que de vouloir changer le réel lorsqu'on ne peut pas le changer. C'est cette conversion extraordinaire qu'opère la sagesse, que les stoïciens ont parfaitement montré dans le monde occidental, que les taoïstes et puis les bouddhistes aussi ont parfaitement développé dans le monde oriental. C'est cette idée que le sage ne cherche pas, encore une fois, à vouloir forcer le destin. Mais le sage est celui qui fait tout ce qu'il peut pour améliorer les choses et pour s'améliorer lui-même. Et à un moment donné, lorsque les forces qui sont là, ne peut pas les bouger, les causalités sont profondes, il ne peut pas les atteindre par sa simple volonté, à ce moment-là, il faut l'accepter joyeusement. Et c'est une forme de détachement. Et ça permet finalement d'accepter de traverser des épreuves, des difficultés, et de comprendre que derrière ces épreuves et ces difficultés, ces souffrances, il peut y avoir une leçon de vie, il peut y avoir un enseignement. Certes, je perds mon travail, certes, je tombe gravement malade, mais peut-être qu'à travers ça, il y a quelque chose qui me fait grandir. Parce que derrière l'idée stoïcienne, rappelons-nous, il y a toujours l'idée de la bonté du monde. Tout ce qui nous arrive, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui peut aussi nous faire grandir, même si ça peut nous écraser d'un point de vue physique ou d'un point de vue matériel. Ça peut être quelque chose qui nous fait grandir d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intérieur. Et donc, on voit souvent dans nos vies qu'il arrive effectivement des épreuves. Sur le moment, c'est extrêmement dur à vivre. Et après, on s'aperçoit qu'on a grandi, que notre cœur a grandi, que nous aimons mieux, nous aimons plus. Des gens qui n'ont jamais souffert, qui n'ont jamais traversé d'épreuves et qui ne les ont pas traversées avec une certaine acceptation, ils peuvent se refermer. Des gens qui ont traversé des grandes épreuves et qui les ont acceptées, souvent ils ont un cœur qui s'est ouvert. Ils ont une dimension humaine qui s'est approfondie. Il y a quelque chose de très émouvant chez les personnes qui ont traversé des épreuves avec une forme de résilience, qui ont su grandir à travers les épreuves. Et on voit bien que des fois dans la vie, nous avons aussi des indications qui nous sont des difficultés, des obstacles qui nous sont amenés pour changer de direction. Lorsque on est engagé dans un travail et qu'on tombe malade de manière chronique, c'est peut-être que ce travail ne nous convient pas. Et que plutôt que d'aller voir le médecin en permanence pour essayer d'aller mieux, il vaut peut-être s'interroger sur est-ce qu'il ne faudrait pas que je change de vie, je change de travail. J'oserais pas dire je change de conjoint, mais hélas, c'est des fois le cas. Nous avons des expériences de vie qui ne sont pas appropriées pour nous, nous n'en avons pas forcément conscience, et souvent... notre corps ou la vie, un accident, nous allons glisser dans la rue, nous casser quelque chose, est là pour nous dire « change de direction, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi ». Et donc le détachement, c'est accepter ça, ne pas se cramponner, ne pas forcer les choses, ne pas vouloir absolument que les choses soient comme je voudrais qu'elles soient. Et lorsqu'il nous arrive un obstacle, s'interroger, est-ce que la vie n'est pas en train de m'enseigner quelque chose, n'est pas en train de me dire « finalement, va dans une autre direction ». Et là, on retrouve très fort cette idée-là dans le courant taoïste qui nous dit au fond « il faut surtout lâcher ». Il faut aller avec le flux de la vie. Il faut être dans le lâcher prise. Il faut pas forcer le destin. Ce qu'on appelle dans le taoïsme le non-agir, ce n'est pas ne pas agir. C'est savoir agir au bon moment. C'est ne pas forcer l'action. Si je vais dans une direction et que j'ai un obstacle, m'arrêter, m'interroger. Est-ce que je continue? Est-ce que je change de direction? Mais ne pas vouloir forcer sans réfléchir. Et donc les taoïstes, qui c'est un courant philosophique qui s'est développé en Chine à partir du 4e siècle d'ailleurs, qui est tout à fait contemporain de Platon, Épicure, Aristote et Stoïcien, tout le courant taoïste s'est développé à la même période avec ces deux grands fondateurs, Lao Tzu et Chuang Tzu. Et le courant taoïste, c'est un courant fondamentalement de détachement, de lâcher prise. C'est l'idée qu'il faut accompagner le mouvement de la vie, le flot de la vie. Si le courant nous mène à droite, on va à droite, à gauche, on va à gauche, tout en ayant une intention. Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Lorsque les flots sont trop impétueux, il faut aller avec le courant. Et donc, c'est une idée très importante qui nous amène à cette conception que l'essentiel du bonheur, c'est d'être flexible, c'est d'être souple, c'est d'être détaché, plutôt que de vouloir se cramponner aux choses, plutôt que de forcer par la volonté le destin, puisque de toute façon, nous sommes impuissants face à bien des événements de nos vies. Il y a des choses que nous pouvons maîtriser, mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Et les stoïciens comme les taoïstes nous disent, lorsque vous ne pouvez pas maîtriser les choses, il vaut mieux lâcher prise joyeusement que de vouloir tout contrôler. Parce que lorsqu'on veut tout contrôler, forcément, on n'y arrivera pas. Forcément, on sera malheureux. Forcément, on rendra les autres malheureux. Et donc, la sagesse, dans cette conception-là, c'est véritablement l'abandon, le lâcher-prise, le non-agir, le non-contrôle, la flexibilité, la souplesse, savoir s'adapter, savoir accompagner le flux permanent de la vie. Et d'ailleurs, Chuang Tzu donne une image très belle, c'est l'image du nageur. Et il nous dit, la vie, c'est comme un nageur qui traverse un fleuve. Si on veut nager pour traverser le fleuve directement, au plus vite, au plus droit, avec la force de la volonté, on a 9 chances sur 10 de se noyer. Parce que les fleuves en Chine, ils sont très puissants, les courants sont très puissants. Il dit, il vaut mieux rentrer dans le fleuve et nous laisser porter par le courant, voir où le courant nous mène, tout en ayant l'intention de traverser, parce que le but est de traverser, mais sans forcer les choses. Et à un moment donné, les courants vont nous porter de l'autre côté, et on aura accompagné le flot du courant en étant souple, en étant flexible, en étant ouvert. Alors que si on veut forcer les choses, on risque de se noyer. Alors que là, si on se laisse porter, à un moment donné, on traversera. Mais on sera reposé, on ne sera pas fatigué, on n'aura pas forcé avec nos muscles. Mais simplement, évidemment, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Ça implique totalement de lâcher le contrôle. Il faut accepter d'être aussi guidé dans sa vie et de ne pas vouloir à tout prix savoir où on va.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.